Lizzie présente Le bazar du zèbre à pois de Raphaël Giordano, lu par Pierre Lognet et Marsha Van Boven. N'ayez pas d'ambition modeste. Elles sont aussi difficiles à atteindre que les grandes. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Le poète fait abstraction de la réalité. Alors, ce rêveur compte les étoiles et va même jusqu'à les imaginer. Giacomo Bardi. Ce n'est pas ce que nous sommes qui nous empêche de réaliser nos rêves. C'est ce que nous croyons que nous ne sommes pas. Paul-Émile Victor. Scène d'exposition. Toute vie commence par un premier acte, et surtout par un lever de rideau. Qui sait si ces instants n'impriment pas un pli au reste de son existence? All the world's a stage, and all the men and women merely players. Shakespeare. Le monde entier est une scène de théâtre, et tous les hommes et femmes y jouent purement et simplement les acteurs. Voilà pourquoi la manière de faire son entrée a toute son importance. Un homme, une femme. Ensemble, ils attendent dans une salle de consultation, plongée dans la pénombre pour ménager la pudeur. Obstétrique oblige. Assis côte à côte, ils se jettent des regards furtifs et esquissent des sourires maquillés d'une confiance qu'ils sont loin de ressentir. Le médecin en blouse blanche entre et invite sa jeune patiente à s'installer en quelques directives bienveillantes. Elle s'exécute et ravale discrètement son besoin d'empathie, proportionnel à son insondable désir d'être rassurée. Elle s'allonge sur le papier blanc qui, immanquablement, se déchire. Sans raison, elle s'agace de cette feuille censée protéger le lit d'examen qui ne tient pas en place. Le docteur lui demande de relever son haut au-dessus de la poitrine et regarde sans l'ombre d'un froncement de sourcil l'énorme bosse à découvert. Enfin, bosse, ballon, montgolfière, exoplanète. Elle ne s'y fait toujours pas. Elle écarquille les yeux devant cette chose qui avant était son ventre et qui, maintenant, est devenue étrangère à son corps. Une protubérance, qu'on regarderait comme une étrangeté dans un cabinet de curiosité. Elle regarde la ligne brunâtre qui relie dorénavant son nombril à son pubis. Le premier dessin de son enfant pour elle. Elle aurait préféré que son fils trouve un autre mur que son corps pour taguer son amour. Elle ne lui en veut pas. Elle sent juste poindre de nouveau une crainte familière. Retrouvera-t-elle jamais ce joli petit ventre plat qui, hier encore, savait faire des ravages? Elle n'a pas envie d'être déjà rangée dans une autre catégorie. Sera-t-elle dorénavant mère avant d'être femme? Elle ferme les yeux pour ne pas y penser. Pas maintenant. Pas encore. Son homme s'enquiert. Ça va? Oui, ça va. Le docteur, lui, à son rôle, se penche pour appliquer le gel froid sur son abdomen. Frisson. Tout bon porteur de stéthoscope aurait parlé d'horripilation ou de réflexe pilomoteur. Les autres, vous et moi, de chair de poule. La sonde commence son travail d'exploration. Le silence s'installe. Il y a des moments où les mots n'ont pas leur place. Le regard de la femme aussi sonde et tente de décrypter la moindre parcelle d'information sur les traits lisses et concentrés de l'obstétricien. Soudain, le visage de l'homme se trouble. Là, n'est-ce pas la ride du lion qui se crispe entre ses deux yeux? Elle retient son souffle et plante ses ongles dans la paume de son mari. L'inquiétude laisse quatre petites marques rouges sang dans sa chair. Il ne bronche pas, lui-même galvanisé par les images surréalistes du petit être qui apparaît sur l'écran. Les secondes paraissent interminables. Puis, le verdict tombe. Première délivrance quelques mois avant l'heure. Tout va bien. Trois petits mots lâchés nonchalamment avec un léger sourire flottant de praticien satisfait. Le cœur des heureux parents explose de joie. Mais pas trop bruyamment quand même, pour ne pas troubler l'ambiance chargée d'une médicale déférence. Vous voulez connaître le sexe? Oui, ils veulent. C'est plus rassurant pour préparer la venue de l'enfant. La couleur du papier peint, les layettes premier âge. La sonde s'agite de nouveau sur l'abdomen. Le médecin cherche. Tente. Tic. Désolé, on ne voit rien. Je ne pourrai pas vous le dire aujourd'hui. L'œil humide de déception, la mère jette un ultime regard sur l'écran où s'affiche encore le postérieur narquois de son bébé.
Scène 1. Je m'appelle Basile. J'ai commencé ma vie en montrant ma lune. Est-ce pour cela que j'ai toujours eu l'impression de venir d'une autre planète? Après 42 ans d'existence, je crois savoir mieux aujourd'hui de quel bois je suis fait. Certainement plus un bois de Geppetto que de meuble Ikea. À 5 ans, j'ai même entraîné à lire tout seul. À 6 ans, après une course-poursuite effrénée dans la cour de récréation avec mes camarades de classe, je m'arrêtais, essoufflé, en portant deux doigts à ma jugulaire pour prendre mon pouls et m'exclamais « Ah, mon cœur bat trop vite !» La fille dont j'avais la faiblesse d'être amoureux, j'étais également atteint d'une forme de précocité sentimentale, se retourna vers moi en s'exclaffant d'un air moqueur.
« Mais non, espèce d'idiot, il n'est pas là le cœur, il est là »
dit-elle en frappant sa poitrine au bon endroit. Le fou rire général fit son œuvre de petit poignard, et l'incident me valut une réputation de crétin fini qui me poursuivit tout le reste de l'année scolaire. Il faut dire, j'étais de ces enfants gauches qui n'attirent guère la clémence de leurs congénères. Droitier du cerveau et gauche du corps. Si maladroit dans mes relations avec les gamins de mon âge. Je ne savais jamais quoi leur dire, comment leur parler, comment me faire accepter. Pour encourager ma vie sociale, mes parents me poussaient à accepter un maximum d'invitations au goûter d'anniversaire et toute occasion de me trouver avec ce que les adultes appelaient « mes semblables ». Imaginait-il un instant qu'il ne pouvait pas y avoir plus dissemblable que ses semblables, que je n'arrivais pas à me sentir bien parmi ces enfants dont je ne partageais aucun des jeux, ni aucune des préoccupations. Parfois, je m'obligeais à entrer dans une bataille à l'épée avec la horde des copains. Un jour, l'un d'eux manqua de m'éborgner. Cela fit bien rire les autres sans que j'arrive à comprendre pourquoi. Tenant d'une main mon œil blessé, je me souviens d'avoir souri pour donner le change et laisser penser que je m'amusais. Gens qui rient et gens qui pleurent. Parfois encore, je me réfugiais dans la cuisine pour tenter d'avoir une conversation avec les parents. Je savourais ces interactions qui me mettaient d'égal à égal avec des cerveaux adultes. Eux me regardaient d'un œil étonné, curieux. Ils se prêtaient au jeu de la discussion quelques instants, puis finissaient par faire tomber la sentence de mon bannissement. « Tu veux pas aller jouer, mon grand ?» Dieu que cette phrase a pu m'énerver. Dire à un enfant « mon grand », c'est lui rappeler combien il est petit. Un cauchemar. Par la force des choses, j'ai appris à me suradapter en répondant par la réaction qui semblait la plus socialement acceptable. Expression sur commande. Afin de mieux saisir les humeurs de mes camarades et d'anticiper les risques inhérents à la fréquentation de cette cruelle tranche d'âge, j'actionnais en permanence mes capteurs d'hypersensibles. Ce qui créa chez moi un état de vigilance presque constant. Exténuant. Je ne saurais dire tout ce que j'ai tenté pour grandir plus vite. Je crois que je suis l'enfant qui a mangé le plus de soupe au monde, qui s'est tenu le plus droit sur sa chaise. Pendant que mes frères et sœurs jouaient comme chiens et chats à des jeux de leur âge, je me planquais dans un coin pour lire le dictionnaire et tout apprendre du parler adulte. Parallèlement à ce programme d'accélérateur de croissance, je tentais aussi de satisfaire ma curiosité insatiable pour tout ce qui touchait à l'électronique et à la mécanique. Il m'arrivait de partir en excursion dans une décharge voisine pour piquer des appareils divers et variés, et revenu chez moi, je les démontais pour voir comment ils étaient faits. Je lisais la consternation dans les yeux de mes frères et sœurs. Ma mère, elle, me grondait. « Tu veux attraper le tétanos ? Je t'interdis de retourner là-bas. Et si tu te coupes ? Et si tu tombes ? Et si tu te fais mordre par un rat ? Et si tu te fais compacter comme une carrosserie de voiture ?» L'imagination des mères est incroyablement prolifique. Mais je l'aimais plus que tout, malgré ses quelques effets de zèle surprotecteurs. Elle seule entrevoyait quelque chose de prometteur dans mes gribouillis bizarres de rêveur. Très tôt, je couvris mes carnets de croquis d'inventions improbables, de réflexions métaphysiques, de poésie.